La dernière fois, j'avais annoncé que j'allais continuer à expliquer le Bodhicharyavatara en expliquant une ou deux stances à chaque séance et aussi en essayant de faire en sorte que chaque séance ne dépasse pas 15 à 20 minutes. Mais pour commencer, j'aimerais d'abord attirer votre attention sur le fait que, en raison du coronavirus, il y a des centaines de personnes qui meurent chaque jour dans beaucoup de pays de par le monde. Et c'est pourquoi je voudrais vous demander et vous faire la requête à vous tous de penser à toutes ces personnes, aux personnes qui sont déjà décédées, aux personnes qui sont gravement malades, et aussi à toutes celles et ceux qui travaillent infatigablement pour venir en aide à toutes ces personnes déjà malades. Je voudrais vous demander de réciter des prières pour toutes ces personnes et aussi de faire des dédicaces à leur attention. Et également, on peut faire le souhait que l'étude que nous allons faire de cet enseignement du Bodhicharyavatara soit bénéfique à ces personnes et nous pouvons faire la dédicace de notre étude à ces personnes. Il m'a été demandé, au lieu de reprendre là où je m'étais arrêté, c'est-à-dire au milieu du chapitre 6 qui porte sur la vertu transcendante de la patience, on m'a demandé de reprendre l'étude du texte depuis le début. Je ne pense pas cependant qu'il soit nécessaire de le faire, parce que tous les enregistrements des enseignements sont toujours disponibles sur le site et dans les archives. Et donc, si quelqu'un souhaite reprendre depuis le début, je suis relativement sûr que c'est possible, que les enseignements sont toujours disponibles, et donc je ne crois pas que ce serait utile ou nécessaire de reprendre depuis le début. En même temps, peut-être que pour ceux qui n'ont pas encore pu avoir la possibilité de reprendre depuis le début, peut-être que pour les personnes qui n'ont pas non plus le temps de pouvoir réécouter tous les enseignements qui ont déjà été donnés, peut-être que je devrais passer quelques séances à donner une sorte de synopsis de ce qu'on a déjà vu, une sorte de condensé de ce qui a déjà été étudié de ce livre. Alors, pour commencer, le titre du livre, c'est Bodhicharyavatara. Donc c'est un titre qui est un mot sanskrit, et l'ouvrage lui-même a initialement été rédigé en sanskrit en Inde. En fait, on raconte que plutôt que d'avoir été écrit, il aurait plutôt été récité et déclamé quasi spontanément par le grand maître Shantideva, puis qu'il a été mis par écrit et transcrit par les grands érudits de cette époque. Et puis plus tard, ce texte a été traduit en tibétain d'une manière tellement agréable, tellement belle, qu'on a l'impression que le texte a été écrit en tibétain dès l'origine. On ne se rend même pas compte qu'il s'agit d'une traduction. Alors dans Bodhicharyavatara, le mot Bodhi de Bodhicharya, il fait ici référence au mot Bodhisattva. Donc Bodhi est une abréviation de Bodhisattva, ici. Donc qu'est-ce qu'on entend par Bodhisattva ? Le terme de Bodhisattva, il est très important dans la terminologie bouddhiste, parce que quand on parle du Bouddha avant qu'il devienne un Bouddha, en fait, on dit qu'il était un Bodhisattva avant de devenir le Bouddha. Et on pourrait presque dire que c'était à l'époque un Bouddha en devenir, si vous voulez. Donc c'était à l'époque un Bodhisattva. Et dans les enseignements bouddhistes, vous retrouverez ce mot-là absolument partout, le mot de Bodhisattva. Dans les récits des Jataka, par exemple, qui sont en fait rien d'autre que les histoires du Bodhisattva avant qu'il devienne Bouddha. Donc c'est les vies passées du Bouddha Shakyamuni pendant qu'il était encore en chemin et avant qu'il devienne le Bouddha. Donc ces Jataka, elles parlent de ses différentes vies, à la fois de ses vies sous forme humaine et de ses vies sous forme non humaine, par exemple en tant qu'oiseau, ou toutes sortes de formes de vie qu'il a eues. Donc cela raconte quelles ont été ses circonstances de vie et aussi qu'est-ce qu'il a fait, comment il a réagit par rapport à ces circonstances. Et donc, ces histoires, on les appelle en général les histoires des Jataka. Donc, C'est un peu, on pourrait dire, le voyage qui a mené le futur Bouddha vers la bouddhéité pendant plein de vies, ce qu'il a fait vie après vie. Et ce qui est aussi important de comprendre, c'est que vous pouvez devenir un bodhisattva. Et c'est l'enseignement principal dans les enseignements du grand véhicule. Parfois, ce grand véhicule qui s'appelle le Mahayana, on l'appelle parfois le Bodhisattvayana, le véhicule du Bodhisattva, pour souligner à quel point la notion de Bodhisattva est centrale pour ce grand véhicule. Et donc, il est aussi important de comprendre que c'est pas seulement le Bouddha qui est devenu d'abord un Bodhisattva puis un Bouddha. C'est tout le monde, en fait. N'importe qui le souhaite, peut devenir un Bodhisattva. Et une fois qu'on est devenu un bodhisattva, eh bien, nous allons tout doucement nous développer nous-mêmes, nous allons développer nos qualités positives innées. Ce que ça veut dire innées, ça signifie que ces qualités positives, elles sont en fait déjà présentes en nous. Elles sont peut-être cachées, en quelque sorte, elles ne sont pas totalement éveillées, mais bien que cachées, elles sont déjà là et. Et donc, parce qu'elles sont déjà présentes, nous pouvons les éveiller ou les développer. Et alors, au bout du compte, une fois qu'on les aura complètement et pleinement développées, quand elles auront atteint leur maximum, alors nous deviendrons à notre tour un Bouddha. Et donc, c'est un peu en résumé toute l'idée du bouddhisme. L'idée que ch chacun possède de façon innée cette capacité à devenir libre de toutes les sortes de souffrances, de tous les types de souffrances, et aussi de toutes les causes de la souffrance, les problèmes, les difficultés. On a donc cette capacité à se transformer totalement et à devenir éveillé et à devenir des Bouddhas à notre tour. Mais pour parvenir à ce résultat, il nous faut commencer à travailler sur nous-mêmes. Et cela, nous devons le faire par nous-mêmes aussi. Et alors se pose la question de comment faire, comment entreprendre, comment faut-il travailler pour arriver à ce développement total des qualités. Et en fait, c'est à cette question-là que répondent les enseignements du Bouddha. Tous les enseignements du Bouddha répondent à cette question de comment travailler sur soi. Le Dharma, donc l'enseignement du Bouddha tout entier, répond à cette question de comment travailler sur soi. Et donc c'est de ce sujet que traite tout le bouddhisme. Donc, comment rendre nos vies meilleures maintenant, dans cette vie? Comment rendre aussi nos vies meilleures à long terme, dans la vie suivante, dans toutes les vies à venir? Et aussi, il ne s'agit pas seulement de comment faire pour s'améliorer un tout petit peu, comment faire pour s'améliorer, comment faire pour devenir un tout petit peu meilleur. C'est pas ça. Il s'agit de savoir comment faire pour nous transformer totalement, complètement, de sorte que nous arrivions à une liberté complète de toutes les difficultés, de toutes les douleurs et de tous les problèmes et de toutes les formes de souffrance. Donc c'est toute l'idée du bouddhisme. Et donc le bodhisattva, c'est quelqu'un qui se dit et qui pense de la façon suivante. Il dit, voilà, je constate, je prends acte du fait que il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Je vois beaucoup de douleurs et je vois beaucoup de difficultés et de problèmes pour chaque être, et pas seulement les êtres humains, mais tous les êtres sensibles dont je fais partie. Et je ne veux plus avoir ces problèmes, je ne veux plus avoir ces souffrances, je ne veux plus avoir ces douleurs, et donc je dois trouver une façon, un moyen de m'en libérer. Et comment pourrais-je trouver un moyen d'apporter une paix et un bonheur durable, et un bien-être durable, à la fois pour moi-même, mais aussi comment puis-je apporter cela à tous les êtres? Et c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est quelque chose qui devient la chose la plus importante pour moi. Et alors le Bodhisattva continue de se dire, je devrais y travailler, je devrais essayer de trouver un moyen d'apporter une solution à tous les problèmes, une solution qui apporte une paix et un bonheur durable à moi-même et à tous les êtres. Et c'est à ça que j'aimerais travailler, C'est à ça que je voudrais consacrer cette vie et aussi les vies à venir et trouver comment apporter cela aux autres. Donc si quelqu'un prend cette décision du fond de son cœur, si, cette décision que voilà, j'aimerais vraiment travailler au bénéfice de tous les êtres, je voudrais d'abord apprendre comment faire et puis ensuite effectivement faire, essayer de vraiment mettre en œuvre ce que j'ai appris pour apporter cette paix et ce bonheur durable, un bien-être complet à tous les êtres. Alors, une personne qui prend cette décision, eh bien, par le fait même de prendre cette décision, cette personne devient un bodhisattva. C'est cette motivation-là qui fait un bodhisattva. Et donc, c'est à ça que renvoie le terme de bodhisattva dans le titre du livre Bodhicharya Avatara. Et cette intention, cette motivation dont on vient de parler, cette décision d'une personne qui veut faire le bien pour elle et pour les autres, qui veut apporter quelque chose de bien, la liberté, le bonheur, le bien-être à tous les êtres de façon équanime. C'est-à-dire cette personne, elle veut apporter du bien, mais vraiment à tous les êtres sans aucune discrimination, à toute personne, tout être d'où qu'il vienne, et pas seulement aux personnes qui lui ressemblent, pas seulement aux personnes de sa communauté, pas seulement à ceux qui partagent ses croyances, sa religion, pas seulement à ceux de son peuple, de son pays, de sa culture, de son monde, de son espèce même, mais à tout, absolument à tous les êtres, sans distinction, sans discrimination, sans laisser ne serait-ce qu'un seul être de côté. Si quelqu'un a cette motivation, alors, eh bien, cette motivation, cette attitude, cet état d'esprit, on l'appelle la bodhicitta. Et donc, si quelqu'un a cet état d'esprit de la bodhicitta, alors on peut dire que cette personne est un bodhisattva. Et en fait, n'importe qui peut devenir un bodhisattva. Il n'y a même pas besoin, pour être un bodhisattva, d'être un être humain. Et donc, a fortiori, il n'y a pas non plus besoin, pour être un bodhisattva, d'être un bouddhiste, évidemment. Donc vraiment, n'importe qui peut devenir un bodhisattva dès lors qu'on travaille au bénéfice des êtres, de tous les êtres, de moi-même et des autres. Dès lors qu'on est dans cette démarche, eh bien, on est un bodhisattva. Et donc maintenant, le mot charya. Donc ça, charya, c'est l'activité. C'est l'ensemble des façons de vivre, l'ensemble de des comportements que l'on a. Comment vivre, comment agir, comment s'entraîner. Donc c'est ça le sens du mot charya dans Bodhicharya. Et donc on parle de l'action. Donc Bodhicharya, ça veut dire la façon de vivre des bodhisattvas, les actions, les comportements des bodhisattvas. Et enfin, Bodhicharya Avatara. Avatara, ça signifie l'entrée dans. Donc comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour entrer dans la façon d'agir des bodhisattvas? C'est ça, si on voulait traduire le titre du livre, ce serait comme ça. Donc l'entrée dans la conduite des bodhisattvas. En gros, par où commencer, hein? Comment s'y mettre, comment apprendre? Et c'est donc de ce sujet que traite ce livre. Et c'est pourquoi il s'appelle Bodhicharya Avatara. Donc ce terme de Bodhicharya Avatara, c'est à la fois le titre du livre et c'est aussi son sujet. C'est de ça qu'il va être question tout au long de l'ouvrage. Donc je vais m'arrêter là sur le texte pour aujourd'hui. Et en conclusion, j'aimerais partager avec vous certaines des choses que j'ai entendues concernant le coronavirus, parce que il se trouve que j'écoute énormément d'informations, de conversations, de discussions venant de tous les pays à travers le monde sur ce sujet du coronavirus. J'écoute toutes ces choses quotidiennement et presque jour et nuit, comme la plupart d'entre vous, je pense, parce que c'est quelque chose qui m'inquiète, cette épidémie. Et j'imagine que ça, je ne suis pas le seul que ça inquiète. Et donc, je pense que ça inquiète probablement les autres également. Et donc, j'ai pu entendre des discussions fort intéressantes sur ce sujet en tibétain, tant en provenance du Tibet directement que de la Chine. Et beaucoup de gens disent que boire de l'eau chaude, boire du thé chaud, boire des boissons chaudes serait très bon parce qu'il semble que lorsque le virus entre dans notre bouche et dans notre gorge, si nous buvons beaucoup et si nous avons, si nous émettons de la vapeur chaude et on fait des gargarismes avec de l'eau chaude ou n'importe quelle autre boisson chaude, il semblerait que ça aide. Il y a même des Indiens qui se trouvaient autour de la province de Wuhan en Chine et qui ont dit que ce qu'ils avaient observé à Wuhan, c'est que beaucoup de gens n'ont fait que ça, boire du thé chaud et de l'eau chaude, et que ça les a que ça les aide, ça les a aidés à guérir. Et donc, puisque dans la mesure où de toute façon il semblerait que ça ne pourrait pas nuire, de toute façon ça ne pourrait pas faire de mal, peut-être qu'il serait bien que nous fassions tous cela. Moi, je le fais pour ma part. Je bois beaucoup d'eau chaude et aussi du thé chinois parfois. Et il semble que ce soit bénéfique pour moi. Et je pense que nous devrions tous faire cela parce que tout le monde dit que de toute façon, il n'existe pas de médicaments. Et donc, pourquoi ne pas faire quelque chose qui pourrait nous aider, ne serait-ce qu'un tout petit peu? Et donc, je vous souhaite une très bonne, une très agréable boisson chaude pour aujourd'hui, que ce soit du thé vert, des infusions, peu importe. Et voilà, je vais donc m'arrêter là et je vous remercie.